Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous Face avec le hors-série du Point. Coup de projecteur ce matin sur les sciences au quotidien. Depuis notre cuisine, notre salle de bain, notre jardin, il est possible de se poser de grandes questions scientifiques. D'où viennent les bulles quand l'eau bout? Pourquoi la tartine tombe presque tout le temps du côté beurré? Quel est le poids du nuage que nous contemplons depuis notre fenêtre confinée? Grâce à l'un de nos invités, Jamy Gourmaud, vous verrez qu'une vie confinée peut devenir un formidable terrain d'exploration scientifique. On se demandera également de quelle façon la pandémie a changé notre rapport aux sciences, pourquoi certains d'entre nous affichent une saine confiance dans la science alors que d'autres s'en détournent et préfèrent adhérer à des croyances difficiles à réfuter, car rappelons-le, l'un des fondements de la science, c'est d'être réfutable. Nous verrons également quelles sont les bases du contrat de confiance entre la science et la société avec Elena Pasquinelli et Mathieu Farina. N'hésitez pas à poser vos questions de 6 à 96 ans et au-delà au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de l'émission. Jamy Gourmaud attend vos questions. Bienvenue dans Grand Main vous Face, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi, grand bien vous fasse.
Bonjour Jamy Gourmaud. Je suis ravi de vous accueillir. Vous avez longtemps présenté l'émission culte C'est pas sorcier, aujourd'hui le monde de Jamy sur France 3, et vous publiez chez Stock, chez Jamy. Je vais vous expliquer, ce livre est le prolongement des vidéos que vous avez proposées au public pendant le premier confinement.
Absolument. Et il y a eu des vidéos, 55 vidéos pendant les 55 jours de confinement. C'était une minute, un peu plus d'une minute quotidienne. Et beaucoup de choses que je n'avais pas eu le temps de dire, de raconter, expliquer comment j'ai choisi ces sujets, comment nous les avons mis en scène avec ma compagne et filmé. Et c'est ce que je voulais raconter à travers ce livre, des coulisses et des prolongements.
Bonjour Louise Cunéo.
Bonjour Ali.
Vous êtes rédactrice en chef du hors-série Le Point, intitulé Les sciences au quotidien, le guide pour vous décomplexer avec à la une Jamy Gourmaud. Quel est l'objet de ce hors-série, Louise Cunéo?
L'idée, c'est de montrer en fait que les sciences sont accessibles à tous et qu'elles peuvent être utiles tous les jours et que ça peut être vraiment formidable de les découvrir pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit.
Bonjour Léna Pasquinelli.
Bonjour Ali.
Vous êtes philosophe des sciences cognitives à l'Institut Jean Nicot à l'École Normale Supérieure. Vous êtes membre de la Fondation La Main à la Pâte. Bonjour Mathieu Farina, bienvenue.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes agrégé de sciences de la vie et de la terre, spécialisé en écologie et biologie évolutive, également membre de la Fondation La Main à la Pâte. Et vous avez coécrit chez Odile Jacob l'art de faire confiance pour un nouveau contrat entre la science et les citoyens. En quelques mots, quel est le but de ce livre, Elena Pasquinelli?
Le but est dans le sous-titre, c'est de renouveler ce contrat, cette compréhension de la science de la part des citoyens et ce voyage vers le citoyen de la part du scientifique qui doit se rendre disponible pour la communiquer, la faire comprendre, comme on va l'entendre aujourd'hui, j'imagine.
Louise Cunéo, pour sensibiliser le grand public aux sciences, il est essentiel de passer par la vie quotidienne.
Oui, je pense qu'on l'a déjà vu par toutes les vidéos que Jamy a pu nous proposer pendant le confinement ou même pendant les émissions C'est pas sorcier qu'il faisait avant. On voit bien que les sciences c'est accessible à tout le monde, pas seulement les enfants, mais aussi les adultes. Si on n'a jamais été bon en sciences à l'école, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas s'y mettre. Et pour ça, il n'y a pas grand chose à faire. Ce qu'il faut faire n'est pas sorcier, si je peux reprendre le titre de l'émission de Jamy. Il faut regarder le monde, il faut le toucher, il faut s'y mettre en fait. Il faut aller participer un peu à la science et être curieux.
Jamy Gourmaud, vous avez accompagné des générations de téléspectateurs et sans vous flatter, vous avez joué un rôle très important auprès de millions de Français en vulgarisant les sciences dans le sens le plus noble, avec bien souvent comme substrat la vie de tous les jours.
Je pense pas assez encore. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Moi, je suis convaincu que la science fait d'abord et avant tout partie de notre culture générale et que elle ne s'adresse pas uniquement aux scientifiques, mais à tous les citoyens. C'est un élément qui est parfaitement indispensable pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Mais au même titre que tous les autres éléments de culture générale, la peinture, la sculpture, la littérature, le cinéma, etc. Voilà, on a besoin de science pour appréhender le monde dans lequel nous vivons.
Mathieu Farina.
Ce qu'on peut rajouter, c'est que en fait, nous sommes scientifiques depuis le plus jeune âge. Hein. C'est aussi ce qu'on raconte dans le livre. On a des outils naturels pour se poser des questions sur le monde. Hein. C'est pas quelque chose qu'on vient nous rajouter à l'école. Finalement, depuis notre plus tendre enfance, on est curieux. On cherche à comprendre comment tout ça se fait. On a des questions sur les étoiles, sur l'univers, sur les dinosaures et les oiseaux. Et finalement, tout ce qui reste, c'est un peu à cultiver cette curiosité naturelle et la renforcer parce que forcément, elle est pas parfaite.
Elena Pasquinelli, il est essentiel d'éveiller le goût de la science dès le plus jeune âge et pas forcément à l'école, par exemple à travers des ateliers extrascolaires, à la maison, par le biais de votre fondation, La Main à la Pâte par exemple.
Partout, hein, la fondation, elle travaille surtout à l'école parce que c'est là qu'on attend tous les enfants. Mais partout où c'est possible, on a vu même pendant le confinement des parents s'y mettre avec leurs enfants. La Main à la Pâte avait publié des billes des sciences pour faire des sciences à la maison, des vidéos inspirées du travail naturellement aussi de notre ami Jamy. Et on a cherché à faire en sorte que voilà, enfants et adultes s'y mettent ensemble. Ça peut être un moment de grande joie aussi.
Elena Pasquinelli, la science, ce n'est pas que de la manipulation ludique, c'est également un exercice intellectuel à stimuler hein, dès le plus jeune âge. Hein.
Absolument, et au-delà de l'émerveillement aussi, de la découverte de faits nouveaux, l'observation d'une fourmi qui bouge, d'une fourmilière, il y a un aspect fondamental qui est celui du raisonnement scientifique qui, structuré dans notre esprit, va nous permettre, voilà, non seulement d'être plus joyeux hein, et plus ouvert à ce qui se passe autour de nous, le comprendre mieux, mais le comprendre aussi pour mieux prendre des décisions, pour mieux évaluer, analyser l'information qui nous submerge souvent et donc pour développer notre esprit critique face à ce monde et à ces mondes de l'information.
Jamy Gourmand.
Oui, je crois qu'Elena a parfaitement résumé et vous le faites magnifiquement bien avec La Main à la Pâte, c'est-à-dire que on part de l'observation qui est évidemment est réjouissante, mais ensuite il y a la compréhension de ce que l'on observe et c'est un petit peu le deuxième effet qui se coule, si vous me permettez, tout simplement parce que cette compréhension génère aussi une forme d'épanouissement et c'est vrai qu'à partir de là, eh bien, on a d'un seul coup, eh bien, toute une batterie d'outils qui vont nous permettre eh bien de comprendre ce qui se passe autour de nous. Moi, j'ai souvent le sentiment, je ne suis pas scientifique hein, de formation, mais en travaillant sur ces différentes émissions, en écrivant ces livres, j'ai toujours eu le sentiment de pénétrer dans les coulisses du monde qui nous entoure. Dès l'instant où vous comprenez, vous parliez d'une fourmi il y a quelques instants, mais comment fonctionne une fourmilière, dès l'instant, vous avez l'impression de vous rentrer à l'intérieur, vous propulser dans un univers qui est le nôtre. Finalement, et à l'écart duquel on reste, parce que je crois qu'on n'ose pas, tout simplement.
Elena Pasquinelli, Mathieu Farina, dans votre livre « L'art de faire confiance », vous nous faites pénétrer dans les coulisses de la science, dans les coulisses des laboratoires de recherche.
Oui, tout à fait. En fait, oui. On, le pari, c'était de se dire que cette même pédagogie qu'on pouvait avoir avec les enfants, de leur présenter justement leurs outils de raisonnement et ceux de la science, eh bien, il fallait le faire aussi avec les adultes, parce que finalement, la science, on la connaît, on en entend beaucoup parler, mais vraiment comprendre comment elle fonctionne, ça reste assez mystérieux. Et le parti pris, c'était finalement de prendre le trousseau de clés, d'aller ouvrir les portes des laboratoires et d'amener le lecteur avec nous pour qu'il comprenne, pour qu'il voit finalement scientifiques travailler et découvrir leurs outils, leurs stratégies au quotidien.
Vous parliez d'adultes, j'ai le sentiment, moi, que les adultes ont un petit problème avec la science, parce que très souvent, ils n'osent pas s'y intéresser, et dès lors qu'on essaie d'expliquer les choses simplement, avec un vocabulaire accessible, eh bien, dès cet instant, les adultes considèrent que ça ne leur est plus adressé, qu'on s'adresse à des enfants. On a peur de ne pas savoir et on a peur de ne pas le dire.
Louise Cuneo, vous constatez hein, que les Français ont soif d'un savoir scientifique et cela passe par une forme de vulgarisation, mais nombre d'entre nous, et Jamy le dit très bien, ne possèdent pas de culture scientifique suffisante et cela peut complexer. Hein.
Alors absolument, ça vient sans doute de l'école et de l'élitisme et de la place qu'on accorde aux sciences. La sélection à l'école se fait notamment sur les sciences. Et ça, en fait, il faut absolument y mettre fin. Et on le voit très bien d'ailleurs. Il y a beaucoup d'adultes qui se sont mis aussi à regarder pendant le confinement les vidéos de C'est pas sorcier ou les nouvelles vidéos de chez Jamy, parce qu'effectivement, ça désinhibe beaucoup de s'y mettre, quoi. Il faut juste se lancer, et une fois qu'on commence à se désinhiber, qu'on ose passer le pas et se dire que non, on n'est pas nul en science, que c'est pas quelque chose de définitif, et ben on peut y prendre beaucoup de plaisir.
Elena Pasquinelli, il n'est jamais trop tard pour enrichir sa culture scientifique, il n'est jamais trop tard pour aimer les sciences.
Ni trop tard, ni trop tôt, je dirais. Non, il n'est jamais trop tard. Je pense que Mathieu, il a dit avant, je vais le ressouligner. Au fond, on a tous notre fond de scientifique, comme on a un fond d'artiste, comme on a un fond littéraire. C'est-à-dire que cette curiosité pour le monde qui nous entoure vient avec nous à la naissance. Et aussi, cette envie d'explorer, de s'y mettre. On perd le goût et peut-être on a moins le temps aussi, en tant qu'adulte, on se fait peur de cette idée de la science. Et c'est là que cette idée aussi qu'on a eue dans le livre, c'était de dire, venez avec nous. Viens, t'inquiète pas, dis-toi. Regarde ce que ces gens-là font. Et c'est pas, je le redis alors, sorcier. C'est très avancé, mais pas sorcier.
Elena Pasquinelli, vous avez un petit problème de micro. On va essayer de régler ça en coulisses. Mathieu Farina, pourquoi est-il fondamental d'élever le niveau de notre culture scientifique et quel impact pour nos sociétés?
Je réponds en répondant en même temps un petit peu à la question d'avant, c'est-à-dire que nous, vraiment, ce qu'on entend derrière science depuis tout à l'heure, on parle de culture scientifique, c'est ça qui va effectivement peut-être impressionner certains adultes à pour se lancer. Ils pensent ne pas maîtriser, je sais pas, des notions complexes de physique. Ce qu'on met derrière science, qui nous semble vraiment fondamental pour la pensée, pour le raisonnement, pour l'esprit critique, c'est aussi finalement ce rouage, ces rouages de la science, cette méthode scientifique, cette démarche, et finalement prendre ses jumelles, ouvrir la fenêtre et regarder les oiseaux, se demander combien il y a d'espèces, combien de fois il faut que je revienne pour sur la même observation avant d'en tirer un savoir. Ça aussi, c'est ce qui compte. Et c'est ça, à mon avis, qui est indispensable pour les citoyens que nous sommes. C'est pas tellement, finalement, de maîtriser des savoirs complexes, c'est de comprendre, finalement, ce qui se joue. Aujourd'hui, on parle beaucoup de science avec le coronavirus. Que font les scientifiques? À quel moment on déclare notre incertitude? Quelle patience on doit faire preuve de patience avant que tel ou tel médicament soit reconnu comme étant le bon. Enfin, c'est vraiment dans cette compréhension, dans cette démarche de la science, dans son optique et dans ce qu'elle cherche et ses objectifs qu'on doit tous améliorer en tant que citoyen, parce que c'est vraiment important, c'est notre quotidien aussi, là aussi.
Et oui, nous vivons une crise sanitaire majeure, hein, on le sait depuis plusieurs mois. Les enfants posent beaucoup de questions sur cette Covid-19 qui bouleverse notre quotidien et nous n'avons pas toujours les réponses adéquates, Jamy.
Non, on les a pas, on en a un peu plus qu'au départ. Et justement, moi, j'ai le sentiment, que cette crise a comblé un peu le fossé qu'il y avait entre la société et la science. Je crois que depuis le mois de mars dernier, on sait un peu plus quelle différence il y a entre une bactérie et un virus, par exemple. On sait un peu plus parce que on a eu envie de savoir. Je crois que les citoyens ont eu envie de comprendre comment fonctionnait ce micro-organisme, comment il était véhiculé, comment il pénétrait dans nos organismes et comment il agissait. Donc, d'un seul coup, on s'est rendu compte que finalement, ce qu'on appelle science et qu'on a du mal à visualiser, eh bien, se conceptualisait, on entrait dans le monde de l'infiniment petit, mais on était malgré tout dans du matériel.
Louise Cuneo, pour la journaliste scientifique que vous êtes, est-ce que la pandémie de la Covid-19 a changé notre rapport aux sciences?
Alors je vais vous dire, en fait, moi normalement je suis même pas journaliste scientifique.
Je suis
la preuve vivante que si on s'y intéresse, exactement, je suis la preuve vivante que si on s'y intéresse, on peut vraiment comprendre ce qui se passe derrière. Il suffit vraiment de se lancer. Et en effet, je crois que les médias ont beaucoup vulgarisé les explications des infectiologues et des pour qu'on comprenne la Covid ou le Covid, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on s'y attarde, on comprend et le vocabulaire devient plus aisé aussi à manipuler.
Mais toutefois, Elena Pasquinelli, certaines controverses publiques entre scientifiques ont entaché parfois le prestige de la science. Je pense par exemple récemment sur le plateau de la chaîne d'information CNews, deux épidémiologistes, le docteur Martin Blachier et le professeur Jean-François Toussaint, qui se sont écharpés comme deux gamins dans une cour de récréation. Ces controverses publiques pas toujours glorieuses peuvent pousser certains d'entre nous à se détourner de la science, ou pire, à douter, à perdre leur confiance.
Je pense que pendant cette pandémie, effectivement, on s'est rapproché de la science, mais on a perdu aussi une grosse occasion de faire de la pédagogie. Et de la faire comprendre d'une manière un peu plus saine. On a eu l'impression d'être face à une science qui était solidement établie. On était face à de la recherche en cours, c'est-à-dire à des phases pendant lesquelles les scientifiques, oui, s'écharpent, se crient dessus, ne sont pas d'accord. Parce que les résultats arrivent petit à petit, Jamy l'a dit, aujourd'hui on en sait beaucoup plus, mais au début de cette épidémie, on ne connaissait pas cet objet. Et ça, c'est un aspect pédagogique important. La science s'attaque à des objets qu'on ne connaît pas, et elle s'y attaque avec des méthodes qui sont rigoureuses, obtiennent des résultats, mais ces résultats demandent du temps, de la patience, de la confirmation, de la reproduction. On revient sur des idées, c'est la science, la recherche fonctionne comme ça, et il faut du temps pour arriver à stabiliser des connaissances. Or, pour le citoyen, on a peut-être un peu failli expliquer que voilà, on était dans cette période mouvante, on avait des choses qui étaient plus sûres, basées sur des méthodes plus rigoureuses, mais on avait aussi encore beaucoup d'incertitudes qu'il faut savoir accepter. Et donc, il fallait pas comparer cette période de foisonnement de la recherche avec des connaissances qui sont bien stabilisées, sur lesquelles le doute n'a pas plané, parce qu'il n'y a plus de débat en cours entre les scientifiques.
Jamy Gourmand.
Oui, je crois que c'est justement le vrai visage de la science qui s'est révélé. Parce que cette science, vous l'avez dit, elle évolue, elle avance. Peut-être qu'on a un peu confondu science, technologie et progrès. Depuis 70 ans, même peut-être un peu plus, eh bien, nous vivons dans une société où dès qu'un problème, une problématique surgit, eh bien, il y a une solution technologique, médicale, qui apparaît quasi instantanément. Et on a oublié que, quand un problème se pose, eh bien, il faut trouver des solutions, et que ces solutions, elles ne tombent pas du ciel, qu'il va falloir, comme vous l'avez dit, mettre en place des protocoles pour aller vers une solution. Dans ces conditions, c'est normal que, et c'est la science, des hypothèses soient émises et que ces hypothèses soient discutées, infirmées ou confirmées.
Et puis n'oublions pas une chose importante, quand deux hypothèses scientifiques s'opposent, il ne s'agit pas du débat entre deux opinions. Alors, ce qui fait le lit peut-être des thèses complotistes, Mathieu Farina, c'est peut-être l'ignorance liée à la nature de la science.
Et oui, tout à fait. C'est vraiment un point essentiel. C'est comment cette science fonctionne. On a donné comme titre l'art de faire confiance, parce que effectivement c'est tout un art. On a envie d'utiliser un petit peu les ressorts qu'on a avec les membres de notre entourage. Hein. Si deux personnes sont pas d'accord, on va se dire personne n'en sait rien. Si quelqu'un change d'avis, on va se dire je peux plus lui faire confiance. Et là non, c'est pas une personne, c'est l'entité science. Elle fonctionne comme ça. Elle prend du temps. Il y a besoin d'avoir un débat, effectivement, comme vous le soulignez, pas un débat d'opinion, mais un débat de faits. Les faits, c'est comme un puzzle qui se met en place progressivement. Parfois, on se trompe, on a mis une pièce du mauvais côté, il faut changer, on accepte ce jeu-là. Et c'est là où la pédagogie vers le grand public, elle est fondamentale. Si on initie le grand public à ces temps longs, à cette notion d'incertitude, à ce puzzle qui se met progressivement en place, on va effectivement gagner une confiance éclairée et éviter justement cette méfiance débordante qui mène vers un relativisme et un aspect un peu complotiste de la chose. Quoi.
Elena Pasquinelli, pourquoi est-il difficile de revenir sur nos positions même quand la science nous donne tort?
Parce que nous sommes très confiants dans nos positions, très souvent. Nous les connaissons mieux que la science. Nous ne savons pas non plus comment la science arrive à ses conclusions. Il y a un effet d'ignorance normale, mais auquel il faut remédier, c'est-à-dire on a l'impression que nos opinions et les opinions des scientifiques, à peu près, elles se valent. Donc, entre biais de confirmation sur nos idées et ignorance de comment la science arrive à ses connaissances bien plus solides que nos opinions, voilà, le choix devient difficile à faire.
Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu'est un biais cognitif ?
Oui, un biais cognitif est une solution rapide et souvent efficace pour résoudre toute une série de problèmes du quotidien. Vous avez des opinions, il faut choisir entre des opinions opposées. Bah, des tendances dans votre cerveau vont vous amener à faire confiance plutôt aux opinions que vous détenez. C'est ce qu'on appelle le biais des confirmations, parce qu'elles vous sont plus disponibles, hein, plus proches, parce qu'elles vous donnent aussi un peu plus d'optimisme. Ou alors, vous allez plutôt écouter la parole d'une autorité, c'est un biais d'autorité, qui vous sert voilà pour faire un peu le tri rapide entre les idées qui vous entourent. On a des biais dans tous les domaines, pas que dans les domaines de l'information. Ce sont un peu des outils que la sélection naturelle nous a fournis au cours de notre longue évolution pour arriver à résoudre rapidement des solutions du quotidien. Mais malheureusement, les situations face auxquelles on se trouve souvent sont plus compliquées que cela, demandent plus de réflexion et demandent donc d'être attentif à ce type de réponse rapide, rapide et peu coûteuse en termes cognitifs, et donner des réponses plus coûteuses en termes cognitifs, plus réflexive.
Allez, dans quelques instants, nous verrons que la maison, eh bien, c'est un formidable terrain d'exploration et de connaissances scientifiques pour mieux comprendre la physique, la biologie, les maths ou encore la biomécanique. N'hésitez pas à poser vos questions, notamment à Jamy Gourmand, il est là. Vous êtes enfant, adolescent, n'hésitez pas à lui parler au 01 45 24 7000. Théo Denmat et Julien Macarez m'ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Manon Cancé. À la technique ce matin, Elisabeth Collet et Anne-Laure Cochet. Je lui souhaite un bon anniversaire. La réalisation est signée Claire Destacan et je vous propose d'écouter le Velvet Underground. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning. Velvet Underground interprété Sunday Morning.
Papa,
grand bien vous fasse.
Pourquoi à l'école le matin on nous dit 6 et 3 font 9
à l'IRBI.
Et puis l'après-midi on nous dit que c'est 5 et 4. C'est étudié pour
sur France Inter.
10h31 et on s'intéresse ce matin aux sciences du quotidien qui permettent d'élever sa culture scientifique avec le hors-série du point, les sciences au quotidien. Parmi nos invités, Jamy Gourmand et ses vidéos qui ont connu un immense succès pendant le premier confinement.
Je rêve, il y a une faute, bougez pas.
Je vais arranger ça.
Voilà, c'est mieux.
Comment l'effaceur fait disparaître l'encre bleue?
Facile.
L'encre bleue, on l'a dit, est essentiellement constituée d'eau, des molécules H2O et des pigments. Une fois sur le papier, elle s'évapore. Les pigments, eux, restent accrochés aux fibres du papier et se lient avec elles. Le revers de la médaille, c'est qu'une fois déposée sur le papier, l'encre ne peut plus être retirée. Impossible de briser les liens qui se sont établis entre les molécules qui constituent le pigment et celles du papier. C'est-à-dire si l'attache est rude pour l'effaceur. Sa botte secrète, c'est le produit qu'il contient, du bisulfite de sodium et de l'eau. Quand ils entrent en contact avec l'encre, une réaction chimique se produit. L'aniline ne disparaît pas, mais sa structure change. Du coup, elle ne réagit plus de la même manière à la lumière. Désormais, toutes les couleurs la traversent et atteignent le papier. L'aniline devient invisible et c'est le blanc du papier qui est renvoyé vers nos yeux.
Facile.
Je sais pas vous, mais moi j'ai tout compris. Merci, merci. Jamie, j'ai tout compris. Tiens, une question issue de votre livre. Pourquoi faut-il se laver les mains pour éviter de transmettre virus et bactéries, en particulier le coronavirus?
Alors ça,
réponse
c'est
aux enfants
c'est,
qui nous
c'est,
écoutent.
C'est une vidéo que j'ai faite dès les tout premiers jours. Je crois que c'est la deuxième vidéo que j'ai faite pendant le premier confinement. Et l'objectif, c'était finalement d'expliquer comment fonctionnait le savon. Et c'est ce qui est intéressant avec la science, c'est que on a des gestes qui sont parfaitement quotidiens, on se lave les mains, on a tous constaté qu'après s'être lavé les mains, eh bien elles étaient plus propres, mais on se dit finalement comment ce savon arrache la saleté. Et l'objectif, eh bien c'était d'expliquer le fonctionnement de cette molécule très particulière qu'il y a dans le savon, qui va avoir la particularité d'un côté de s'accrocher à l'eau, d'un côté elle est hydrophile, et puis de l'autre côté elle est hydrophobe, elle déteste l'eau. D'un côté elle l'aime, de l'autre elle la déteste, et lorsqu'elle déteste l'eau, eh bien elle va s'attacher aux matières grasses, et donc arracher ces matières grasses en s'écoulant avec l'eau que l'on fait couler sur nos mains.
Et nous avons une question d'une toute jeune auditrice. Bonjour Isia.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Tu as
Bonjour,
5 ans.
Isia.
Tu as 5 ans, c'est ça?
Oui.
Bon, eh bien, on écoute ta question, Isia.
Et bon, en fait, moi...
C'est ta question,
Isia. Comment, et bien, la Terre, elle s'est formée.
Ah, question essentielle et fondamentale, Isia. On en a pour 3 heures pour te répondre. Qui s'y colle? Tiens, Jamie Gourmaud.
Alors, je vais essayer d'apporter une part de une partie de la réponse à Isia. Déjà, Isia, si tu m'entends, je suppose que tu as déjà laissé tomber un objet par terre. Si tu lâches un objet, il tombe. Il tombe, pourquoi? Parce qu'il est attiré par la Terre. Alors maintenant, imagine que tu es dans l'espace et que il y a plein de petits morceaux de matière dans l'espace. Eh bien, les morceaux de matière les plus denses, les plus gros, vont attirer les plus petits. Et tous ces éléments vont se rassembler, venir les uns vers les autres, les plus gros attirant les plus petits, les plus denses attirant les plus massifs attirant les plus petits. Et tout cela va se rassembler, s'agglomérer et finir par former une grosse boule qui va former la Terre. Alors toutes les planètes se sont formées de cette manière. Alors on dit souvent que la Terre s'est formée il y a 4,6 milliards d'années, c'est vrai, mais ça ne s'est pas passé en un clin d'œil. Il a fallu des centaines, des millions d'années pour que le phénomène se produise et que tous ces éléments s'agglomèrent et forment notre Terre, qui bien sûr, au tout départ, ne ressemblait pas du tout à ce qu'elle est aujourd'hui.
Et je précise que Jamie Gourmaud vient d'improviser cette réponse, car vous n'aviez pas la question auparavant. Mathieu Farina, une petite précision peut-être à la question d'Isia.
Ou un correctif, parce que
Ou un correctif, peut-être.
Ah non, je crois qu'il a tout bien expliqué. Hein. C'est effectivement ce gros nuage qu'on appelle les nébuleuses qui, sous ce phénomène de gravité, c'est difficile de l'expliquer autrement, a permis une agglomération avec des choses plus denses qui fait que tout au cœur de notre Terre, on se retrouve avec un noyau vraiment très 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 dense, très très solide, et puis plus autour les différentes couches de la Terre qui forment finalement différentes enveloppes comme pour la croûte qui forme l'écorce de l'orange. Voilà, je cherchais une métaphore un petit peu visible.
Merci beaucoup Isia de nous avoir appelé. N'hésitez pas à poser vos questions à nos invités ce matin. Passons à la cuisine où il est essentiel de se laver les mains avant de cuisiner. Alors j'ai envie de déguster ce midi une tarte à l'oignon, Jamy. Mais pourquoi l'oignon fait-il pleurer? Expliquez-nous.
Vous pourrez mettre votre masque sur vos yeux pour vous protéger. Voilà. La cuisine, c'est un laboratoire extraordinaire. D'ailleurs, il y a un excellent auteur, Hervé Tisse, qui a révélé cette chimie de la cuisine et qui l'a rendue accessible. Un excellent pédagogue. La cuisine, je trouve aussi que c'est un espace qui nous permet de nous réconcilier avec cette discipline qu'est la chimie, qu'on renvoie plutôt aux paillasses froides des laboratoires et qui, d'un seul coup, prend de l'aisance et on reprend goût finalement à la science avec la cuisine. Alors pour répondre à votre question sur les oignons, il faut imaginer que l'oignon il est constitué de cellules comme tous les organismes comme nous, et quand le couteau attaque l'oignon, il va déchirer ces petites cellules. D'ailleurs on le voit parce qu'il y a un liquide qui sort, et là il va y avoir une réaction entre des enzymes et puis des acides qui contiennent du soufre qui à l'intérieur de l'oignon, il va y avoir une réaction qui va provoquer la production d'acides sulfénides, qui contiennent du soufre et qui vont s'évaporer. Et donc ce gaz va remonter jusqu'à nos yeux et va se dissoudre dans dans nos larmes, et en se dissolvant, cette acidité va nous agresser. Le problème, c'est que pour se défendre, on se met à pleurer, et donc plus il y a de larmes, plus il y a d'acide, plus il y a de gaz qui se dissout, et donc plus on pleure.
Louise Quinéo, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du hors-série du Point, les sciences au quotidien. La cuisine, et Jamy le disait, c'est un endroit rêvé pour un chimiste en herbe.
Oui, absolument. On l'a vu d'ailleurs avec les explications de Jamy, c'est tout à fait magique quand il répond à Isia ou quand Jamy a répondu à votre question, Annie, sur l'oignon. Qui n'a pas souri, quoi? Qui n'a pas pris du plaisir à comprendre tout ça? Dans la cuisine, on peut faire exactement la même chose. Les expériences de la main à la pâte le prouvent aussi. Mais il y a des choses qu'on peut faire dans la cuisine pour améliorer ça. On a un papier dans notre hors-série sur justement Hervé Tisse dont parlait Jamy tout à l'heure.
Professeur et chercheur à Agrotech.
Voilà, c'est ça. Il est chimiste et il travaille avec le chef Pierre Gagnère. Ils se font des petits défis ils se font des petits challenges. Une énigme scientifique est posée par Hervé Tisse à Gagnère. Gagnère répond à ça et intègre dans ses recettes les innovations scientifiques. Il y a vraiment quelque chose en science qui a trait à tout ce qu'on vit au quotidien et notamment dans la cuisine.
Louise Quinéo, tiens, aidez-nous à percer le mystère de la tartine qui tombe presque toujours du côté beurré. Cette malédiction a une explication.
Elle a une explication, et il y a des dizaines de chercheurs qui s'y sont collés, notamment un plus connu que les autres sur le sujet qui s'appelle Robert Matthews, qui lui est spécialisé dans la théorie de Murphy, la loi de Murphy. Je ne sais pas si vous voyez, Alice, que ça, c'est tout ce qui est susceptible de mal tourner tournera nécessairement mal. Donc la tartine, si elle tombe, elle tombe principalement du côté beurré. Alors, en réalité, les scientifiques qui s'y sont penchés ont compris que ça dépendait, enfin c'était évidemment lié à une des lois fondamentales de l'univers, c'est-à-dire que la gravitation attire la tartine, fait que la tartine est attirée par le sol. Jamy, vous me corrigez évidemment si je l'explique mal, parce que voilà. Mais l'idée, c'est de se dire que pour que le cauchemar de la tartine beurrée s'arrête, il faudrait beurrer de toutes petites tartines, beaucoup plus petites, 2,5 cm ou 3 cm de côté maximum, ou alors leur déjeuner, petit déjeuner à une table de 3 mètres de haut, pour que la tartine ait le temps de faire un demi-tour supplémentaire et tombe du côté du pain, enfin.
Jamy Gourmand.
Exactement, c'est une histoire de tour en fait, parce que quand la tartine va tomber, eh bien, elle va tourner autour de son centre de gravité, et ce centre de gravité, eh bien, il va dépendre, bien sûr, de la taille de la tartine, de la forme de la tartine, et ensuite le nombre de tours va dépendre de la hauteur et de la taille de la hauteur de laquelle on la lâche et de la taille de la tartine. Donc, ben voilà, si elle fait un tour complet, eh bien, elle tombe du bon côté, et si elle fait un tour et demi, elle tombe du mauvais côté.
Restons en cuisine, Jamy. Pourquoi la banane noircit-elle ?
Alors, ce qui était intéressant avec la banane, c'est... Alors moi, je me suis pas dit c'est pourquoi elle noircit. Ce qui m'a interrogé, c'est la banane noircit, la peau devient noire, mais quand on ouvre la banane, l'intérieur, la chair, reste blanche. Pourquoi la peau noircit-elle et pas l'intérieur ? Eh bien, en fait, c'est parce que la banane n'aime pas trop le froid. Mm-hmm. Et quand on la met dans son réfrigérateur, eh bien, les cellules qui composent sa peau vont se ramollir, devenir moins résistantes, moins étanches. Alors, il y a plusieurs composants qui vont s'assembler les uns aux autres. Et puis, il y a de l'oxygène aussi qui va pénétrer à l'intérieur de la banane. Il va y avoir une oxydation et la banane va se mettre à fabriquer des tanins. Mm. Voilà. Et ce sont ces tanins qui vont faire noircir la banane. Il va y avoir une association avec un élément qu'on appelle le phénol. Et étant donné que dans la chair, il n'y a pas ces phénols, eh bien la chair reste blanche.
Jamy, je me mets dans la peau d'un petit Ali de 6 ans et demi qui se demanderait pourquoi l'emmental possède des trous. D'où proviennent les trous de l'emmental ?
Alors, oui, pourquoi dans l'emmental finalement et pas dans d'autres fromages ?
Et oui, pourquoi ?
Voilà, bah, tout simplement parce que l'emmental est un fromage à pâte, un fromage pressé, à pâte pressée, et un fromage qui a une croûte. Un fromage, c'est vivant. À l'intérieur du fromage, un fromage au lait cru. Hein. Un fromage au lait cru, c'est vivant. À l'intérieur, eh bien, il y a en permanence des réactions entre les micro-organismes qui le composent. Et ces micro-organismes, eh bien, en consommant les sucres qui sont présents dans cette matière qui fait le fromage, eh bien vont dégager des gaz. Et ces gaz, eh bien dans beaucoup de fromages, eh bien ils peuvent s'échapper, mais dans l'emmental et comme dans la plupart des fromages à pâte pressée, eh bien et à croûte, eh bien ce gaz ne peut pas s'échapper. Et donc, il va former des bulles. Et je crois qu'avec l'emmental, des chercheurs suisses ont découvert récemment qu'il y avait également des micro-particules de foin. Et c'est aussi la transformation de ces micro-particules qui génèrent des gaz. Et bon, évidemment, quand le fromage est entier, on ne les voit pas, ces bulles. Mais dès que l'on coupe, eh bien, on découvre ces bulles, ces fameux trous de l'emmental.
Bienvenue Brigitte.
Voilà, j'ai pas eu de trou de mémoire.
Brigitte, bienvenue. Quelle est votre question, votre témoignage ?
Alors en fait, moi je n'ai aucune question à poser.
Merci.
À Jamy.
Ouf.
Je veux simplement lui faire part de ma reconnaissance infinie. J'ai enseigné les sciences pendant 40 ans et les toutes dernières années, j'ai arrêté il y a 12 ans maintenant, les toutes dernières années, j'ai utilisé les émissions C'est pas sorcier pour illustrer mes cours, les introduire, expliquer aux élèves ce que je n'étais pas capable de faire moi-même, bien souvent. Et il m'a été d'un précieux secours et je voudrais lui dire vraiment ma reconnaissance. Voilà, des gens comme Jamy sont indispensables dans un pays comme le nôtre et dans une société tellement dure en ce moment. Et voilà, chaque fois que j'aperçois quelque part sur une chaîne, quelle qu'elle soit, une rediff du célèbre camion C'est pas sorcier, je le regarde toujours avec émotion, avec bonheur et avec un peu d'eau qui perle aussi.
Jamy,
merci beaucoup Brigitte. Je vous dis merci pour vos propos, mais aussi merci pour la longévité de cette émission et aujourd'hui le monde de Jamy, tout simplement parce que c'est aussi grâce à vous, grâce aux téléspectateurs que ces émissions existent, grâce au fait que beaucoup d'enseignants ont utilisé comme outil cette émission. Il ne s'agit pas se remplacer les uns les autres. Hein. Le métier d'enseignant est un métier extraordinaire, très difficile à réaliser. Je n'en serais absolument pas capable. Mais voilà, si je peux apporter ma petite brique, vous être d'une petite aide, c'est avec grand plaisir.
Merci beaucoup Brigitte pour votre témoignage. Allez, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au 01 45 24 7000.
Un peu jeune et aveugle, je n'avais pas les clés. Tu étais de toutes mes pensées. Je ne parlais plus que de toi et m'agaçais quand tu ne répondais pas. Et les autres me répétaient de trouver quelqu'un d'autre, d'arrêter de tomber pour celle qui s'en fichait de moi. Oui, les autres me répétaient de trouver quelqu'un d'autre, d'arrêter de tomber pour celle qui s'en fichait de moi. Tout le monde cherche ces idylles de jeunesse, surtout celles dont on nous prive, et les gens qui nous aiment, on les méprise. Oh, tout le monde cherche ces idylles de jeunesse, surtout celles dont on nous prive, et les gens qui nous aiment, on les méprise. Choses en tête, peut-être était-il insensé de penser t'aimer pour de vrai. J'aimerais pouvoir enfin grandir avant de laisser quelqu'un m'aimer, apprendre un peu plus à me cerner. Et ma mère me demandait si en regardant le futur je voyais vraiment cette fille-là dont je disais être amoureux. Et toujours elle demandait si en regardant le futur je voyais vraiment cette fille-là dont je disais être amoureux. Tout le monde cherche ces idylles de jeunesse, surtout celles dont on nous prive, et les gens qui nous aiment, on les méprise. Oh, tout le monde cherche ces idylles de jeunesse, surtout celles dont on nous prive, et les gens qui nous aiment, on les méprise. Dans les cases, pas besoin de courir, pas besoin de souffrir. La route est si longue et pleine de surprises. Tout le monde cherche ces idylles de jeunesse, surtout celles dont on nous prive, et les gens qui nous aiment, on les méprise. Oh, tout le monde cherche ces idylles de jeunesse, surtout celles dont on nous prive, et les gens qui nous aiment, on les méprise.
Voyons interpréter Teenage Fantasy.
On peut obtenir quelque chose avec rien.
Grand bien vous fasse.
En le multipliant.
À l'IRBI.
Une fois rien, c'est rien. Bon, mais trois fois rien. Bon, trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose, n'est-ce pas ?
Sur France Inter.
10h50 et on s'intéresse ce matin aux sciences qui irriguent notre vie de tous les jours avec le hors-série du Point, les sciences au quotidien. Parmi nos invités, Jamy Gourmand, qui a connu un grand succès avec ses vidéos pendant le premier confinement. Tiens, une question qu'une petite fille de 8 ans pourrait vous poser. Pourquoi ne sentons-nous pas la Terre tourner ?
Ah, ça c'est une question qui intéresse beaucoup les enfants, parce que pendant le confinement, c'est une question à laquelle j'ai répondu parce qu'un enfant me l'avait posée sur mes réseaux et que je détaille d'ailleurs dans le bouquin qui vient de sortir. C'est une question, je crois, que les enfants se posent parce qu'ils se disent lorsque je suis en voiture avec mes parents ou lorsque je fais du vélo, quand j'avance, je sens l'air qui circulent autour de moi, pourquoi je ne sens pas la Terre tourner qui, elle, c'est vrai, circule quand même à grande vitesse. Il faut s'imaginer que à l'instant où nous parlons, mon cher Ali, eh bien, la maison de la radio qui tourne avec la Terre se déplace à 1100 km par heure. Donc ça va très vite et pourtant, on ne sent rien. La réponse est toute simple, c'est parce que l'atmosphère qui nous entoure tourne en même temps que nous. Alors on pourrait se dire, bah oui, mais quand je prends le train qu'il démarre, eh bien je me sens un peu collé au siège, et quand on freine, eh bien je j'avance. Ça, c'est à cause de l'inertie. On ne sent pas ce mouvement, tout simplement parce que la vitesse de la Terre est parfaitement constante. Ce que l'on ressent quand on est quand on est en avion, en train ou en voiture, ce sont les accélérations, le passage d'une vitesse à une autre.
Elena Pasquinelli, Mathieu Farina, je rappelle que vous publiez ensemble L'Art de faire confiance. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, quand on fait de la science au quotidien, eh bien, il est important d'être conscient d'une série de biais cognitifs qui affectent notre jugement. Pouvez-vous nous donner quelques biais cognitifs? On a évoqué tout à l'heure le biais de confirmation. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns auxquels il faut être attentif?
Je commence et je laisse Mathieu terminer parce que je suis restée collée à la tartine dont on a parlé avant. Du coup, je cherchais la manière de reprendre la tartine, elle est là. En fait, j'ai adoré l'explication de la tartine. C'est pas une explication qu'on peut se donner dans la vie de tous les jours, mais une chose qu'on peut faire dans la vie de tous les jours est chercher à comprendre déjà si le phénomène il est réel. Alors, je pense qu'on a tous, à propos des biais cognitifs, des trucs du genre, je sais que le café ne me fait pas dormir, si je mange ceci, je suis malade, etc. Parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. Mais on a souvent l'impression que c'est vrai et que la tartine tombe toujours systématiquement du mauvais côté. Parce que justement, on a des biais qui nous font mémoriser ou prêter plus d'attention aux événements, disons, positifs ou négatifs, mais au sens des événements marquants. Alors, la tartine qui tombe du bon côté, qui ne se gâche pas, tu la reprends, tu la mets dans ta bouche, tu oublies. Mais si la tartine se tombe sur le beurre, tu dois nettoyer, en plus jeter ta tartine, bah, ça, tu vas t'en souvenir. Du coup, dans ta mémoire, petit à petit, tu collectes exclusivement les observations de la tartine qui tombe du mauvais côté, pas de la tartine qui tombe du bon côté, et donc tu arrives à la conclusion que la tartine tombe seulement ou seulement pour toi parce que t'as pas de chance du mauvais côté. Voilà un biais d'observation qu'on a dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire nos observations sont sélectives. On fait attention ou aux choses qui confirment nos idées préalables ou aux choses qui sont plus marquantes. Et on se prête pas à observer de façon systématique. Là, il faut pas que les parents écoutent. Mais par exemple, les enfants curieux pourraient tester systématiquement leurs tartines, se faire un petit tableau, préparer des tartines et chercher à les faire tomber toujours de la même manière de leur table pour voir combien de fois elles tombent du bon côté, combien de fois elles tombent sur le beurre ou sur la confiture, et voir si cet effet effectivement est systématique. Interroger leurs copains, les appeler au téléphone, de nouveau les parents n'écoutent pas, et dire est-ce que tu peux faire la même chose chez toi? Je voudrais savoir, moi j'ai utilisé ce protocole, je fais comme ça et comme ça, la table elle est haute de cette manière. Et voilà, ça c'est la différence entre comment marche la science, comment marche notre observation quotidienne. C'est-à-dire que les scientifiques savent qu'il y a ce genre de biais de sélection et donc ils mettent en place toute une série de protocoles, d'attention, de stratégies pour éviter de tomber dans ce biais de sélection des observations.
Oui, je voulais juste revenir sur une petite chose là. Il y a quelques instants, on parlait de le phénomène de ne pas ressentir la Terre tourner. On peut se dire, mais finalement, à quoi ça sert de savoir ce genre de petites choses? Moi, je trouve que les questions de science sont des questions à tiroir, parce que on part d'une question comme celle-ci, d'une question d'enfant, pourquoi je ne sens pas la Terre tourner? Et puis très vite, eh bien, on est propulsé dans l'espace, parce que finalement, pour comprendre, pour apporter cette réponse, eh bien, on est obligé de parler de la rotation de la Terre, et en parlant de la rotation de la Terre, on parle de sa vitesse en fonction de l'endroit où l'on est, et puis on arrive à la vitesse de la Terre quand on est à l'équateur, et on comprend que cette vitesse étant grande, c'est d'ici que l'on va lancer les fusées qui vont déposer, lâcher des satellites dans l'espace, tout simplement parce que ces lanceurs vont bénéficier de ce qu'on appelle l'effet de fronde. Donc vous voyez, ce que je trouve extraordinaire moi avec la science, et c'est pour ça qu'on disait que finalement ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure, c'est qu'on part d'une question toute bête, une question d'enfant, mais ça nous amène à comprendre ben, finalement une activité industrielle, spatiale d'aujourd'hui.
Bienvenue Clara.
Bonjour.
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 Merci pour ton ton enjoué. Quel âge as-tu Clara?
7 ans.
Très bien. Eh bien, nous écoutons ta question.
Je voulais savoir si ils avaient trouvé le problème, le vaccin du virus, le coronavirus.
Ah, bah, je pense que Mathieu Farina, qui est donc agrégé de sciences de la vie et de la Terre, peut-être qu'il va pouvoir te répondre. Mathieu Farina, Clara alors, se demande s'il y a un vaccin qui va arriver.
Malheureusement, il n'est pas encore là. Hein. On le saurait déjà. Par contre, effectivement, quand on cherche une solution actuellement un vaccin, il y a tout un tas d'étapes à respecter. Donc, il y a beaucoup de. On parlait d'hypothèses tout à l'heure. Hein. Les chaque vaccin qu'essaient de mettre au point différents laboratoires sont comme des hypothèses finalement qu'on va essayer de poursuivre jusqu'au bout. Et dans un vaccin, il y a à la fois vérifier le fait qu'il ne va effectivement guérir, hein, provoquer dans l'organisme une réaction immunitaire satisfaisante, mais aussi qu'il va être au contraire sans effet secondaire. Donc pour assurer la santé des utilisateurs futurs de ces vaccins, on passe comme ça par 3-4 phases de tests successifs, et actuellement il y a plusieurs essais qui sont justement dans cette phase 3. On n'en est pas encore à franchir le dernier cap, mais ça devrait arriver.
Merci. Merci beaucoup Clara pour ta question, et puis n'oublions pas eh bien que aiguiser son esprit scientifique au quotidien, ça permet de lutter contre les pseudosciences, les fake news, chers au président Trump notamment. Merci beaucoup Jamy Gourmaud d'être venu ce matin chez Jamy. Je vais vous expliquer, c'est publié chez Stock, et ce sont les coulisses des vidéos phénomènes de Jamy Gourmaud. Merci beaucoup Mathieu Farina et Elena Pasquinelli. Je recommande vivement L'art de faire confiance pour un nouveau contrat entre la science et les citoyens. C'est publié chez Odile Jacob. Merci beaucoup Louise Cuneo. Votre hors-série passionnant Les sciences au quotidien, le guide pour vous décomplexer, est disponible en kiosque et en version numérique. Et puis évidemment, pour augmenter votre culture scientifique, vous pouvez écouter à 14h La Terre au carré de Mathieu Vidard, et bien entendu Les Petits Bateaux à 19h30 le dimanche.